Donc nous sommes à la troisième et déjà dernière soirée de découverte de l'oraison, d'initiation à l'oraison. Donc la soirée précédente, je vous avais parlé de l'amitié du Christ, une manière de découvrir la prière en centrant notre relation au Christ vrai homme et vrai Dieu. Et puis je vous avais donné différentes pistes pour pouvoir nourrir cette amitié avec le Seigneur à travers différentes traditions spirituelles, largement basées sur la parole de Dieu, d'une part, sur notre vie, pour que notre prière soit bien reliée à notre vie, et puis toute l'importance du cadre de la prière pour pouvoir durer. Et la durée va être un peu la question principale de cette soirée, puisque j'ai défini à la suite de Sainte Thérèse la prière comme une amitié, et on sait déjà par expérience, c'est notre expérience humaine, qu'une véritable amitié se prouve dans le temps. C'est une relation qui est capable de traverser un certain nombre de périodes difficiles pour vérifier qu'elle a du prix, qu'elle est vraie et qu'elle est fiable, au fond. Et pour la prière, c'est la même chose. Donc on va parler des difficultés dans la prière. C'est en général là qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de choses qui peuvent s'apaiser. Vous vous sentirez peut-être moins seul dans vos combats spirituels. Et l'importance de la persévérance dans la vie de prière. Je voudrais parler, dans une première partie, un peu des enjeux de ce dont il s'agit, c'est-à-dire d'un combat spirituel. La prière implique nécessairement un combat spirituel et j'aimerais dire un petit peu pourquoi et comment bien prendre de la hauteur par rapport à ça pour pouvoir ne pas se tromper de combat. Et puis dans un deuxième temps, j'en viendrai à des conséquences plus pratiques qui vous intéressent certainement autour des combats principaux que sont l'expérience de la sécheresse et puis l'expérience des distractions qui sont les combats les plus classiques que nous rencontrons tous dans notre vie de prière. Donc, première partie autour des enjeux du combat spirituel de la prière. Qu'est-ce qui se joue dans ces combats? Pourquoi est-ce si difficile? C'est très important, et c'est un peu le sens d'un temps d'initiation à la prière, de formation, c'est important de former son intelligence à notre vie spirituelle pour ne pas en rester au ressenti. Qui malheureusement est souvent un peu le cas, on oublie de dire qu'il faut être intelligent quand on prie, c'est-à-dire de se former à la tradition de l'Église, pour pouvoir tenir et traverser les moments difficiles. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quelque chose qui est très très important, c'est de bien se rappeler à quel niveau de notre personne se joue la prière. La prière, elle ne se joue pas d'abord au niveau du ressenti. Je l'ai déjà dit la dernière fois, je le redis avec force. La prière ne concerne pas d'abord, même si elle peut concerner, notre dimension sensible. C'est au fond l'aspect le plus extérieur de notre humanité, ce qui nous met en interaction avec le monde extérieur, notre corps, notre sensibilité. La prière peut nous toucher à cet endroit-là, mais ce n'est pas l'endroit le plus profond. C'est la première couche, si je puis dire, de notre humanité. Le deuxième aspect, ce sont ce qu'on appelle nos facultés, c'est à la fois notre intelligence et notre volonté, et on peut aussi se laisser piéger par ça, c'est-à-dire de réduire la prière à ce que j'en comprends. Et donc je vais juger ma prière, soit au niveau 1, mon ressenti, c'était bien, c'était pas bien, ou au niveau 2, ce que j'en comprends et ce que j'en perçois, où j'ai eu de grandes pensées sur Dieu, donc franchement c'était très bien. Que j'en reste au niveau 1 ou au niveau 2, je ne suis pas au vrai niveau de la prière. C'est très important de comprendre ça. Alors, quel niveau 3, si je puis dire? C'est ce que la Bible appelle le cœur profond. Pas le cœur au sens de l'affectivité, au sens moderne, mais au sens biblique, de l'intériorité, pour être presque dire de la conscience, en tout cas ce qui fait le centre de ma personne. Et donc, c'est le lieu, entre guillemets, qui m'échappe un petit peu. Et ce que nous dit la tradition chrétienne, c'est que c'est dans ce lieu-là, paradoxalement, que je suis le plus moi-même. C'est-à-dire c'est mon sanctuaire, le lieu le plus secret en moi. Et en même temps, et les deux sont vrais, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le lieu de la prière est à la fois le lieu où je suis le plus centré sur mon être profond, mon « je », ma personne, et en même temps, c'est le lieu de la relation la plus profonde avec le Seigneur. C'est là que se joue ma prière, mon amitié avec le Christ. Donc ça, c'est très éclairant déjà, pour bien comprendre que mes combats, il faut que j'apprenne à les décrypter. Si c'est mes combats, c'est simplement « je ne sens rien » ou « je ne comprends rien », bon, bah, le fait de comprendre que ce n'est pas si grave que ça, ça peut dédramatiser les choses. Encore une fois, la grande phrase de Sainte Thérèse, l'important dans l'oraison, ça n'est pas de penser beaucoup, c'est-à-dire la concentration de l'intelligence, ou on pourrait dire aussi, en rajoutant un élément, de ressentir beaucoup, hein, mais d'aimer beaucoup. Et l'amour ne se mesure pas simplement à ce que j'en sens, ou alors l'amour c'est simplement être amoureux, ça ne dure pas toute la vie, ou alors à ce que j'en comprends. Et là aussi, l'intelligence, heureusement, elle est plus petite que le mystère de Dieu. Donc, comprendre que la prière se joue à un niveau, je dirais presque infrasensible, suprasensible, bon, peu importe, au-delà de ce que j'en sens et de ce que j'en comprends, ça préserve le mystère de la prière et ça ne va pas faire dépendre mon engagement et ma fidélité de cela. L'acte de foi fondamental que je dois poser dans ma vie de prière, c'est Dieu est présent même si je ne le sens pas et Dieu agit même si je ne le comprends pas. Vous voyez, la présence de Dieu et l'action de Dieu indépendamment de ce que j'en sens et de ce que j'en comprends. Alors évidemment que le Seigneur peut venir toucher mon intelligence, me donner une lumière. Évidemment que le Seigneur peut venir toucher mon corps et ma sensibilité et me toucher. Et il faut l'accueillir avec reconnaissance. Et je dirais y trouver sa nourriture. Mais je ne pourrai jamais faire une sorte de proportion entre les deux. En tout cas, Jean de la Croix est très très clair là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'attitude de fond par rapport à notre vie de prière. Si on ne dit pas ça et si on n'oublie pas ça, il ne faut pas s'étonner qu'on se décourage dans notre vie de prière parce que c'est sûr que ça sera difficile. Ceci étant posé dans cette première partie, pourquoi l'oraison reste malgré tout un combat? Eh bien certainement parce que le fait d'aimer en vérité, ce n'est pas si facile que ça. Ça suppose d'entrer dans un chemin de persévérance où la tentation fondamentale, ça va être le découragement dans la vie de prière. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle en parle d'expérience elle-même, puisqu'elle s'est découragée au point de laisser tomber la prière, l'oraison. Elle dit elle-même, hein, dans le livre de sa vie, « Je passais un an et plus sans faire oraison, par surcroît d'humilité, me semblait-il. Ce fut là la plus grave des tentations que j'ai subies, car avec l'oraison, si j'offensais Dieu un jour, il en était d'autres où je recommençais à me recueillir. » Celui qui a commencé à faire oraison ne doit pas y renoncer. Thérèse, elle est vraiment d'une très grande clarté en disant qu'il faut un engagement redoutable d'amour et de fidélité dans l'oraison. Donc ne pas se laisser conditionner par notre affectivité. Alors pourquoi ces combats? Je dirais, ça n'est que la durée qui va éprouver la véracité et la profondeur de notre engagement. Et je pense que c'est encore plus difficile aujourd'hui, où on est tellement à l'heure du zapping et de « ça me plaît, ça me plaît pas », que l'oraison est quelque part encore plus difficile parce qu'on est moins préparé à cela. Et pourtant, une relation qui va simplement dépendre de ce que je sens et des conditions ne sera pas vraiment ancrée. Le critère fondamental de fécondité de notre vie de prière, c'est la fidélité. C'est aussi simple et fondamental que ça, comme toute relation vraie. Si la prière est une relation, une amitié avec le Christ, il n'y a rien d'incohérent ou d'étonnant à ce que le vrai critère soit la fidélité. C'est pour ça que Sainte Thérèse dit, une fois qu'on s'engage vraiment sur un chemin d'oraison, même s'il est tout simple, tout petit au quotidien, si je donne simplement 10 minutes au bon Dieu ou un quart d'heure, eh bien l'important, ça va être de tenir avec sa grâce et de ne pas lâcher. C'est ça qui va, je dirais, mesurer la qualité de mon engagement et pas d'abord ce que je sens, ce que je comprends. Voilà. L'objectivité du temps donné. Vous savez, quand il se passe rien dans la prière, je me dis, c'était dur aujourd'hui, j'étais complètement à côté de ce que je vivais. Oui, mais si en même temps j'ai donné ce temps-là, je sais qu'objectivement, si j'ai fait ça par amour, ben c'est donné, et c'est une preuve d'amour. Et c'est déjà beaucoup. Voilà, ça, ça peut aussi m'aider. La question qu'on peut se poser, c'est de se dire, si je laisse tomber le Seigneur à la première difficulté, qu'est-ce que c'est que mon prétendu amour ? Qu'est-ce que c'est que ma prétendue amitié ? Il y a un texte que j'aime citer pour parler des difficultés de la prière, c'est le chapitre 6e de l'évangile de Saint Jean, à la fin de l'évangile, du chapitre, pardon. Vous savez, le discours sur le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm, où Jésus commence à parler de lui comme pain de vie, et puis ça devient un peu plus concret avec son chair, sa chair et son sang qu'il veut donner à manger et à boire. Et en fait, le discours choque de plus en plus ses auditeurs, au point qu'à un certain moment, certains décident de partir. Et l'évangéliste Jean nous dit, mais à partir de ce moment-là, beaucoup de disciples cessèrent de marcher avec lui. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il ne cherche pas à dire « Je vous en supplie, restez. Restez, j'ai besoin que vous soyez avec moi. » Il se tourne vers les 12 et il leur dit, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Il ne cherche pas à les retenir, il les renvoie à leur liberté. « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et Pierre dit à ce moment-là, « Vers qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais c'est un verset biblique qui peut nous aider dans les moments difficiles. Le Seigneur nous dit, « Est-ce que toi aussi tu veux partir au moment où ça devient difficile ?» Où tu sens plus rien, où ça devient un peu ennuyeux la prière, ou est-ce que tu choisis de rester par amour, c'est-à-dire pour ce que tu veux vivre et non pas pour ce que je te donne. Au fond, le test, si je puis dire, c'est l'épreuve de la gratuité de l'amour. Est-ce que je prie parce que ça me fait du bien, au fond, ce qui n'est pas plus mal, hein, le Seigneur aime à nous combler, ou est-ce que je prie parce que je veux aimer le Seigneur indépendamment de ce qu'il me donne, ou du moins ce que je pense qu'il me donne. De même qu'une vraie relation, elle suppose une vraie gratuité. Si je suis ami simplement avec les gens qui me donnent des choses, qu'est-ce que c'est que cette amitié-là ? Bon, si la prière est une amitié avec le Christ, il va falloir que je traverse l'expérience de la gratuité pour rester avec lui parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est Jésus, et non pas parce qu'il me donne ci, mais qu'il me donne ça. Ou alors, quelle est la liberté qui s'engage à ce moment-là ? Il y a tout un chemin, je dirais, de purification de notre désir, de nos motivations pour prier, que le Seigneur va nous permettre, à travers les combats et la durée, de laisser tomber. C'est pour ça que la prière est un chemin de dépouillement, un chemin d'humilité, mais en même temps un chemin de liberté et de gratuité, parce qu'on va vers plus d'amour, plus d'authenticité, et peut-être si on était très intéressé au début, on avait une approche très utilitariste de la prière, voilà, la prière, à quoi ça sert ? Progressivement, on va se comprendre qu'en fait, la prière ne sert à rien, au sens où l'amour ne sert à rien. Simplement, l'amour fait vivre. L'amour fait exister. Ben, la prière aussi, ça devient quelque chose de l'ordre de l'oxygène. Ça fait vivre. Donc, on n'est plus au niveau de « ça sert à ceci, ça sert à cela ». Simplement, sans la prière, je ne suis pas. Et en même temps, je dirais que la prière, dans ces moments-là de combat, est en même temps, une école de vie. Je suis intimement convaincu que la prière est en quelque sorte un microcosme de notre vie. Si je ne sais pas affronter les combats dans la prière, j'aurai beaucoup de mal à affronter les combats dans ma vie. Si je ne sais pas tenir un quart d'heure par jour, même quand ça devient ennuyeux et difficile, ben, il est probable que j'aurai beaucoup de mal à affronter d'autres combats dans ma vie parce que je n'aurai pas été vainqueur avec le Seigneur dans ma fidélité de prière. Donc au fond, voilà, je dirais si l'oraison est une miniature de ma vie, plus je serai vrai et combatif par amour, hein, on n'est pas dans le volontarisme, on est dans l'amour, la volonté d'aimer, engagé, plus je serai paré, équipé pour les autres combats de ma vie, dans mes relations, dans mes engagements et autres. Et en tout cas, ce que je sais dans la vie de prière, c'est que je ne suis pas le seul à combattre. Je ne suis pas David face à Goliath, le Seigneur combat avec moi. Je suis revêtu de l'équipement de Dieu. Le Seigneur me donne la foi, l'espérance et la charité qui sont le centre de ma relation avec le Seigneur. Dans mon cœur profond, dans le niveau le plus profond de mon sanctuaire, ce qui crée ma relation avec Dieu, ce sont les vertus théologales de foi, d'espérance et charité. Et ces vertus théologales sont des dons de Dieu. Je me dispose à les recevoir et je peux les développer, mais fondamentalement, elles me sont données. Voilà un petit peu pour cette première partie, vous voyez, un petit peu générale, un petit peu, je dirais, on a pris un peu de la hauteur, mais c'est fondamental. Si je ne forme pas mon intelligence à ce que je vis, ben, je vais rester collé à mon expérience et je vais être au niveau de j'ai envie, j'ai pas envie, ça marche pas. Bon, le Seigneur mérite un peu plus que ça. Il nous a donné un cerveau, une tradition qui nous précède à travers des docteurs de l'Église comme Sainte Thérèse. C'est pour que nous nous laissions former et que nous soyons intelligents. J'ai lu un livre l'année dernière, je l'ai trouvé très intéressant, qui nous rappelait à quel point le fait de pécher est bête et stupide. Quand nous péchons, nous sommes bêtes et stupides. Le Seigneur nous rend intelligents, les saints sont intelligents parce qu'ils suivent leur intelligence, une intelligence ouverte à la grâce. Mais quand on prie, il faut être intelligent, c'est-à-dire savoir ce que l'on vit, ce que l'on fait, et investir toute notre humanité dans ce que nous vivons, notre corps, notre intelligence, notre affectivité, mais en sachant que le cœur, je dirais de l'affaire, notre relation avec le Seigneur, c'est au plus profond de nous. Donc tout doit être convergé vers cette intériorité. C'est pour ça que le recueillement est tellement important et qu'il faut se centrer sur, non pas sur notre nombril, mais sur notre cœur où le Seigneur demeure. À partir de là, dans cette deuxième partie, je voudrais rentrer dans le vif du sujet, le plus concret, qui est les deux formes de combat les plus classiques, même s'il peut y en avoir d'autres, les distractions et les sécheresses. Sainte Thérèse a une affirmation qui va tout résumer, je la cite toujours dans le livre de sa vie, et elle parle d'expérience. « Il est très important que nul ne s'afflige ni se tourmente des sécheresses, point 1, pas plus que des inquiétudes et des distractions de pensée, point 2. » Vous voyez, on n'a pas inventé l'eau chaude. Pour gagner la liberté d'esprit, dit-elle, et ne pas vivre toujours dans l'affliction, le but c'est de gagner la liberté d'esprit, et ne pas vivre toujours dans l'affliction, commençons par ne pas redouter la croix. Nous verrons le Seigneur nous aider à la porter, nous vivrons dans la joie, et nous tirerons profit de tout cela. Dans sa pédagogie, Sainte Thérèse insiste beaucoup sur la manière dont nous commençons à nous engager sur le chemin de la prière en embrassant la croix. Comme elle dit. Hein, une sorte de saint réalisme, ne nous étonnons pas que la suite de Jésus passe par la croix et la résurrection. Il y aura des combats, nous dit Sainte Thérèse. Et c'est très important de le savoir à l'avance, parce que quand il arrive, on pourra dire, c'est pas un scoop, je le savais. Donc je me suis un petit peu préparé à pouvoir traverser ces combats. Mais s'il y a un combat, et c'est très important de se rappeler ça, c'est parce qu'il y a un enjeu. C'est pas un combat parce que ben, c'est difficile, ma brave dame. C'est parce qu'il y a un but. Et le but de l'oraison, le but de la vie de prière, c'est la transformation dans le Christ. C'est la sainteté. C'est de devenir une seule volonté avec le Christ. Alors appelez ça comme vous voulez, la divinisation, la déification, la transformation d'amour dans le Christ, la sainteté, tous les mots. Mais c'est ça notre but. Nous sommes créés pour cela, dès ici-bas, la vie éternelle, c'est pas simplement demain. Après notre mort, c'est dès aujourd'hui, nous pouvons vivre de la vie éternelle. Mais pour ça, il faut se laisser transformer par la grâce en profondeur, comme les saints, pour devenir unis au Christ. Voilà, comme dirait Sainte Élisabeth de la Trinité, vivre le ciel ici-bas. J'ai trouvé mon ciel sur la terre, car le ciel, c'est Dieu. C'est ça, notre vie. C'est faire descendre le ciel sur la terre. L'éternité, ce n'est pas quelque chose qui va après le temps, c'est dans le temps. C'est aujourd'hui, et dans la foi, je peux vivre déjà de cette qualité d'amour qu'est l'éternité, mais si je rentre dans ce processus de transformation. Donc franchement, si ça, c'est la vie chrétienne, ça vaut le coup d'y aller. C'est toujours important. Si j'oublie le but, forcément, je me prends les pieds dans le tapis, dans le guidon, et je dis, ah, c'est vraiment difficile la vie chrétienne, si vous savez, c'est dur. Oui, d'accord. Si je ne lève pas la tête en disant, mais regardez la grandeur à laquelle nous sommes appelés, la sainteté est transformée en Dieu. Comme dit Saint Jean de la Croix, nous devenons Dieu par participation. Excusez du peu. Nous sommes transformés dans l'amour de Dieu. C'est ça le but de la vie humaine. C'est quand même quelque chose de magnifique. Il faut se le rappeler. Si on oublie ça, on perd le chemin. Donc si je garde ça en tête, et Sainte Thérèse insiste pour dire « ayez de hautes pensées », c'est d'une très grande importance. De hautes pensées parce que nous nous sommes faits pour de grandes choses. Si j'oublie cela, ben effectivement, je vais toujours être un peu peut-être mesquin dans ma vie de prière. Si je comprends que je suis appelé à entrer dans une relation avec le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, waouh, ça vaut le coup de donner de ma personne, d'être transformé et ensuite de rayonner sur l'Église. voilà, je prends un peu de hauteur et de distance. Et à ce moment-là, effectivement, je peux embrasser la croix. Parce que la croix va être le lieu de transformation de ma personne, de mort et de résurrection pour pouvoir aimer. Et le mystère pascal, il se vit dans l'oraison. C'est logique, parce que toute la vie chrétienne se vit dans le mystère pascal. Tout doit être en nous, je dirais, transformé par la grâce, donc mourir pour ressusciter. Mais dans la vie de prière, ça passe par les distractions et les sécheresses, tout simplement. On peut rêver de grandes grâces mystiques, hein, mais c'est souvent dans la pauvreté de nos quotidiens que se joue cette transformation. Alors, premier aspect, les distractions. Qu'est-ce qu'on appelle les distractions dans la vie spirituelle ? Mais ce sont à la fois nos pensées, ça peut être aussi des sentiments qui viennent de l'imagination, et qui vont détourner notre regard intérieur de ce que nous avons cherché à faire au début du temps de prière, à nous recueillir sur le Seigneur. Ça peut être des choses à faire, j'ai absolument besoin de retourner mon rôti et qui est dans le four, tel problème à régler vraiment qui m'obsède absolument, et c'est très très important que je le fasse, la nostalgie d'une situation passée qui me revient dans les émotions, la difficulté rencontrée dans la journée, vous voyez très bien de quoi je parle. Alors, la première remarque importante, c'est qu'en tant que telle, les distractions ne sont pas des péchés. Très important pour resituer les choses à leur place, au sens où elles sont constitutives, on peut dire qu'elles sont des conséquences du péché originel, si vous voulez, au sens où elles sont les traces en nous du fait qu'on n'est pas unifié. Donc on est un peu diffracté dans tous les sens, plutôt poussé à l'extérieur qu'à l'intérieur, et que donc, c'est pas facile de rester présent en intelligence et je dirais en sensibilité à ce que nous voulons vivre. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter. Nous sommes des êtres humains et même les saints avaient leurs distractions, même s'ils pouvaient recevoir de grandes grâces. Elles sont au fond un chemin d'humilité et d'humanité. Quand nous prétendons à des pseudo-anges, voilà, à commencer à nous élever vers le ciel, les distractions nous ramènent à notre humanité la plus concrète. Et pour Sainte Thérèse, la vertu d'humilité est fondamentale. Quand on commence à se prendre pour des grands saints, il faut se méfier. Alors, à partir de là, comment vivre avec ces distractions ? On peut faire une distinction entre deux réalités, pour essayer d'être un peu plus clair, les distractions et les préoccupations. En tout cas, c'est ce que je vous propose pour être un peu plus clair. Alors, les distractions, ce sont des choses plus légères. Alors, les distractions, c'est assez bête, si je puis dire, assez simple plutôt. Il s'agit de les quitter. Les quitter, et surtout pas de partir à leur chasse. C'est-à-dire, quand on part à leur chasse, en fait, on se laisse piéger par elles. On se dit « Ah, je me suis encore laissé tromper par telle ou telle pensée. Ah, c'est terrible. » Et en fait, je me retrouve avec moi-même, je suis en train de me regarder, en train d'être parti à droite, à gauche. Donc, voilà, c'est le mouvement de la conversion. Tourner le dos à ses pensées, ces émotions qui me traversent, et je reviens vers le Seigneur. Mais, au fond, l'expérience de la distraction, c'est le travail pratique de ma conversion dans les petites choses. Je suis encore parti à droite, à gauche. Je reviens vers le Seigneur. Alors, il y a différentes façons de revenir vers le Seigneur. La première, c'est poser un acte de foi, tout simplement. On dit, hop, Seigneur, je suis désolé, je suis encore parti et dans telle ou telle direction. Je reviens vers toi, je reviens vers vous. Et honnêtement, beaucoup de nos temps de prière consisteront essentiellement à ces allers-retours entre mes pensées et je reviens vers le Seigneur, mes pensées et je reviens vers le Seigneur, telle idée et je reviens vers le Seigneur. C'est pas grave. Si j'ai compris que l'enjeu, c'est la qualité d'amour, et pas mes grandes pensées ou je sais pas quoi, les qualités d'actes d'amour que je vais poser dans mon temps d'oraison, qui va peut-être durer un quart d'heure, je vais poser 12 actes de foi et d'amour en disant « Seigneur, je reviens encore », c'est très beau. Et cette oraison peut être très pauvre et très décevante pour mon ego, aura peut-être beaucoup plus de fruits que le moment où ça a été extraordinaire, j'ai été saisi depuis le début, et vraiment, merci Seigneur. Qu'est-ce que je sais de la fécondité de ma vie de prière ? Voilà. Donc, vous voyez, poser des actes de foi, revenir vers le Seigneur, tout simplement. Alors, parfois, les distractions peuvent être vraiment envahir tout mon mental. Et du coup, je n'arrive pas à descendre à un niveau plus profond. Hein. Tout le chemin, c'est passer du mental au cœur profond. Du mental au sens moderne, pas au sens de Sainte Thérèse. Hein. Tiens, mon côté cérébral. Je peux parfois m'arrêter, respirer, voilà, ou reprendre peut-être une lecture, ou peut-être prendre une prière vocale qui va m'aider à reprendre quelque chose, casser ma manière de faire pour pouvoir prendre un peu de recul sur mes pensées, ou encore revenir à la conscience de mon corps par la respiration. J'avais beaucoup insisté à travers la prière de Jésus, chercher à retrouver une respiration lente et profonde qui me fait reprendre conscience que ma prière se joue au niveau de mon cœur profond et pas de mon cerveau. Hein, donc essayer de trouver des manières de couper court à mon... Vous savez, Sainte Thérèse appelait la folle du logis. Ça tourbillonne là-haut, dans le tour de contrôle. Bon, ben, j'essaie par tous les moyens d'échapper à cette tour de contrôle en descendant un niveau plus profond, voilà, en ouvrant les yeux, en reprenant un support de lecture, en regardant une icône, en reprenant une respiration profonde, et toutes les bonnes idées qui pourront vous aider. Voilà, en tout cas, les distractions, il n'y a pas d'autre chemin. Il faut entrer dans ce combat spirituel qui est rude, mais de revenir vers le Seigneur en disant « je fais ce que je peux, le Seigneur ne me demande pas plus ». Quand il s'agit plutôt de préoccupations, alors, qu'est-ce que sont les préoccupations? C'est des choses un peu plus sérieuses qui, on va dire, me saisissent au niveau émotionnel, c'est surtout en fait émotionnel. Et bien, à ce moment-là, je dirais qu'il faut avoir la stratégie inverse, c'est de dire, puisque je n'arrive pas à quitter ces préoccupations pour aller vers le Seigneur, je vais faire l'inverse, je vais demander au Seigneur de venir dans mes préoccupations. Et puisque je suis pris par ça, je vais invoquer la présence du Seigneur dans cette situation. Seigneur, viens visiter telle personne, viens me visiter parce que là, je suis angoissé, je n'en peux plus, c'est très difficile. Je vais vivre cela sous ton regard, avec toi. Oui. Ce sont deux manières dans les deux cas, enfin, c'est une seule manière, pardon, dans les deux cas, de chercher à vivre avec le Seigneur ce que je vis. C'est tout. La prière est une amitié avec le Christ. Il faut que je sois avec le Christ et surtout que je ne sois pas tout seul. C'est ça l'enjeu. Donc je me décentre de moi-même pour aller avec le Seigneur ou je fais venir le Seigneur en moi. Au fond, c'est une image que j'aime bien utiliser, je dis les distractions sont comme des colocataires encombrants, on ne sait pas très bien quoi faire, voilà, avec lesquels il faut vivre positivement, avec un peu d'humour. Souvent, on voit chez Sainte Thérèse qu'il y a beaucoup d'humour. L'humour et l'humilité, ça va de pair. Donc, il faut se reconnaître que j'ai passé peut-être mon temps de raison, 95% de mes distractions. Voilà, je l'offre au Seigneur et je dis, Seigneur, je suis désolé, mais je cherche à revenir vers toi. Voilà, pour les distractions, premier combat. Donc, quitter les distractions ou invoquer la présence du Seigneur dans ce que peuvent être les préoccupations. Deuxième combat, plus rude en un sens, et plus complexe aussi, ce que l'on appelle les sécheresses, ou la sécheresse. Alors, pourquoi la sécheresse? C'est le sentiment de moi qui ai soif, qui cherche à boire l'eau vive comme la Samaritaine, sec. Voilà. Je ne sens pas cette eau vive, et le temps se fait long, sentiment d'ennui et de vide, avec une petite voix intérieure qui commence à arriver, ça ne sert à rien, tu perds ton temps, tu as tellement d'autres choses plus importantes à faire, pourquoi prier, etc. Bon. Alors, encore une fois, rassurons-nous, la petite Thérèse ou Sainte Thérèse d'Avila sont passées par là, et Sainte Thérèse d'Avila dit ceci, très souvent, pendant quelques années, j'étais plus désireuse de voir la fin de l'heure que je devais passer en oraison et d'entendre sonner l'horloge qu'à d'autres bonnes choses. Et j'aurais bien souvent affronté de meilleur cœur je ne sais quelle pénitence grave plutôt que de me recueillir dans l'oraison. Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, voilà, ça peut nous déculpabiliser et nous rassurer aussi quand le temps devient long et que nous regardons désespérément l'aiguille qui tourne ou que nous espérons le réveil de notre smartphone qui va sonner. C'est normal, mais l'important c'est de reconnaître ça, c'est dur, mais je t'offre, Seigneur, ce temps dur. Voilà. Parce que c'est en même temps là que j'apprends à aimer. C'est dans l'ennui aussi que j'apprends à aimer. Aujourd'hui, on ne supporte plus l'ennui. On ne supporte plus l'ennui, on ne supporte plus notre humanité. Alors, à quoi peut être due cette période de sécheresse? Il y a essentiellement trois raisons, trois causes. La première, elle peut être due un peu à notre faute, c'est-à-dire une forme de tiédeur dans notre vie chrétienne. C'est comme si notre vie n'était pas ajustée à notre vie de prière et que la terre que je suis, c'est l'image biblique, la terre, n'est pas au fond, ajusté, adapté pour recevoir l'eau de la grâce. Du coup, ça craquelle. Et ouais, c'est comme il est plus torrentiel sur le, quand l'eau qui est complète. Enfin, là, une terre qui est craquelée, ben, du coup, elle ne peut pas, je dirais, bénéficier de cette eau-là. Donc, il faut s'interroger sur mon cadre de vie. Et est-ce que, au fond, mon cadre de vie me permet d'avoir une vraie vie de prière ? Vous savez, au début, c'est difficile de faire rentrer les temps de prière dans ma vie, donc j'essaie de la rentrer comme je peux dans le quotidien. Bon, ça, c'est la première étape, c'est bien. Mais si j'en reste là, du coup, ma prière, c'est simplement une activité parmi d'autres. Et du coup, ben, c'est normal que la prière va être un peu compliquée. Il va falloir que je comprenne qu'en fait, la prière doit devenir le centre, parce que le Seigneur doit être le centre de ma vie, ou le Seigneur n'est pas le Seigneur de ma vie. Et pour que le Seigneur soit le centre de ma vie, ben, il faut au fond que, je dirais en un sens, ma vie s'organise autour de ma prière. C'est-à-dire que ma vie soit à peu près calée dans mon rythme de sommeil, dans mon tempo, pour que vraiment ma prière soit un lieu de respiration, et non pas que j'arrive en étant complètement à côté de, je dirais, de ce que je vis. Hein, donc dans ces moments-là de sécheresse, peut-être que la prière peut venir interroger soit ma vie, soit le fait que je ne suis pas nourri spirituellement. C'est-à-dire que je ne me nourris pas assez de l'Écriture sainte, de la parole de Dieu. Hein, quelqu'un qui est engagé sur un chemin de prière et qui ne se nourrit pas de l'Écriture, c'est normal. Si je n'écoute pas le Seigneur qui me parle par l'Écriture, ben, c'est normal qu'il ne se passe pas grand-chose en moi. Ou j'aurais du mal, en tout cas, à déchiffrer sa présence et son action dans ma vie. Hein, d'où l'importance du lien entre l'exo divina et oraison, ou en tout cas dans une méditation très simple de l'Écriture, par lequel je vais apprendre à nourrir ma relation au Seigneur et à comprendre qui est le Seigneur. Parce que comprendre qui est le Seigneur sans l'Écriture, il y en a qui ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ou, en tout cas, des formes de lecture spirituelle. Lire des ouvrages spirituels qui vont nourrir ma relation au Christ. Voilà, ça peut être la première cause. Donc, c'est ma responsabilité, la qualité d'engagement de ma liberté dans ma vie de prière. Premier aspect. Le deuxième aspect, qui dépend aussi de moi, mais un peu moins, on peut dire, c'est une forme d'indisposition temporaire. Ben voilà, il y a les jours avec et les jours sans. Notre affectivité, elle est en dents de scie, hein, et on peut parfois passer par des moments difficiles. Au niveau affectif, même parfois au niveau psychique. Voilà, si on rencontre une période difficile, peut-être de dépression, par exemple, quelque chose de plus profond, ou une profonde phase de tristesse, ça va affecter d'une manière ou d'une autre notre vie spirituelle. On n'est pas, je dirais, des rondelles de saucisson, tout est lié en nous. Hein, les différentes dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure, notre sensibilité, notre intelligence et notre cœur profond, tout ça interagit l'un sur l'autre. Donc il est normal, quand je vis une phase difficile, au niveau affectif ou de mon équilibre, qu'il y ait des conséquences sur ma vie de prière. Et dans ce cas-là, si ça intéresse, ben, il faut faire preuve d'un peu de bon sens, c'est-à-dire de trouver la manière de prier qui va nous aider à, je dirais, à tenir bon avec souplesse, même s'il va falloir peut-être qu'on aménage un peu autrement notre temps de prière, parce que c'est difficile. Deuxième aspect. Le troisième aspect, peut-être le plus habituel dans le temps, ben, je dirais que c'est une épreuve de foi. Voilà. C'est une grâce de purification qui fait partie du chemin, une étape de croissance qui a pour fruit, je dirais, de nous transformer, de changer notre égoïsme qui nous colle tellement à la peau pour devenir plus libre, de coller un peu moins à notre ressenti, à notre moi, pour nous ouvrir. Un des fruits notamment de tout ce chemin de désert, de sécheresse, c'est d'élargir la taille de notre cœur. Notre intériorité, notre cœur s'élargit. Et du coup, quand le Seigneur va donner sa grâce, son eau vive, on aura une capacité beaucoup plus grande à recevoir. Voilà. C'est une sorte d'opération chirurgicale que fait le Seigneur. On ne voit pas, on ne sent rien, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et en fait, il se passe des choses très très importantes. Mais c'est tellement profond que du coup, le Seigneur ne nous permet pas de le voir et de le sentir. D'où l'importance de dire « Je crois, Seigneur, que tu agis ». Sainte Thérèse d'Avila utilise une image qui est très belle dans le livre du château intérieur. Elle part d'une transformation, en utilisant au fond une image du mystère pascal, du ver à soie qui va devenir un papillon. Et elle s'étonne en disant, mais comment est-ce que cette petite bête hideuse de ver à soie va devenir ce papillon magnifique qui vole? C'est la même chose. Il y a une continuité et en même temps c'est une transformation. Ben, nous c'est pareil. Le ver à soie que nous sommes doit devenir un papillon. Et vous voyez, pour passer de l'un à l'autre, on peut comprendre que c'est un peu compliqué, qu'il va falloir que le Seigneur mette, si je puis dire, les mains dans le cambouis, et que ça va être une transformation extrêmement profonde. Il va falloir du temps, il va falloir la persévérance, et tout cela pour que le Seigneur fasse cette transformation. Et ce sont le genre d'images qui peuvent nous aider à comprendre qu'il ne se passe rien, d'après moi, mais en fait, si, il se passe quelque chose. Mais il va falloir que je pose cet acte de foi, que le Seigneur me purifie, me transforme, me libère. Voilà, un chemin de transformation, comme Israël, 40 ans dans le désert. Ce qui est un bon thème pour le carême. Hein. Carême, tous les ans le carême, encore une fois, bon, ben oui, on a vraiment besoin d'être sanctifié, d'être transformé. Il a fallu 40 ans pour que le Seigneur transforme Israël. Bon, soyons patients. Soyons patients pour que le Seigneur aussi nous transforme dans notre vie de prière, dans notre relation. En tout cas, dans ces trois cas-là, et je conclue pour les sécheresses, la seule attitude à avoir, c'est la persévérance. La persévérance. Ne pas démissionner, ne pas raccourcir le temps de prière, sauf raison grave. Mais en revanche, être intelligent et imaginatif pour aménager ce temps de prière s'il est difficile, c'est-à-dire changer ma manière de prier. Revenir par exemple à une prière plus vocale, peut-être plus répétitive, ou redire très lentement un Notre Père, ou un Je vous salue Marie. Ou encore, et c'est très important, faire mémoire, me souvenir des moments de grâce, de lumière. Quand je ne vois plus rien, me souvenir, et si je l'ai noté sur un cahier, ça peut être très précieux, que le Seigneur ne m'a pas abandonné, même si vraiment, sur le moment, je me demande où est-ce qu'il est et ce qu'il fait. Ça, c'est ma perception. Me rappeler ce que le Seigneur m'a déjà donné, tout ce qu'il m'a donné avant, pour fortifier ma volonté, pour m'encourager à aller sur le chemin, pour évangéliser. Parce que vous savez, la tentation d'Israël en Égypte, c'est de dire « Oh là là, c'est terrible, elle est où cette terre promise ? Moïse nous en parle, on ne la voit pas. » Mais est-ce que c'est si sûr que ça ? Est-ce qu'il ne nous aurait pas trompé ? Est-ce qu'il ne nous a pas menti ? Est-ce que ce n'est pas du vent ? En fait, on est tous pareils dans ces moments-là. Et qu'est-ce qui se passe intérieurement ? Eh bien, l'imagination va commencer à venir travailler la mémoire et nous dire « Mais au fond, on était pas mal en Égypte. » C'était sympa, on mangeait du concombre, de l'ail, des oignons. D'accord, on était esclaves, mais c'est exactement ce qui se passe en nous. C'était mieux quand je priais pas, c'était quand même plus sympathique, et j'avais moins de problèmes. Le démon va venir travailler notre imagination et nous casser au fond la vérité, la réalité, et pour nous faire retourner en arrière. Et là, en fait, c'est un combat spirituel d'armer notre volonté par l'amour et dans la vérité de corriger ce qui est faux dans notre imagination en disant « Non, ça c'est une tentation ». Je veux aimer le Seigneur, et je sais très bien qu'avant j'étais esclave. Et c'est parce que le combat devient plus difficile que c'est le signe que ça avance. Au début, effectivement, quand je faisais rien, j'avais l'impression que j'étais quelqu'un de bien. Et plus j'approche du Seigneur, plus je vais voir, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mes combats, mes ombres. Donc il ne faut pas que je m'en étonne. Il ne faut pas que je dramatise des choses. Si le combat devient difficile, c'est parce que ça travaille en moi. Donc il faut que je tienne bon et que j'accepte de marcher sur ce chemin d'humilité. Et qu'au fond, paradoxalement, cette expérience de la sécheresse fasse grandir davantage la soif. Hein, puisque c'était le début de cette initiation de l'oraison. Le début, c'est le désir. Le désir, c'est la soif. Et si la sécheresse fait grandir la soif, c'est douloureux la soif, mais c'est fondamental. Eh bien, je dirais, ça veut dire que ma capacité intérieure grandit. Je suis capable de recevoir plus qu'avant. C'est ça la sainteté. Mais les saints, ce sont ceux qui ont fait grandir en eux leur capacité de recevoir l'amour de Dieu. Ce n'est pas des héros d'abord. C'est des gens capables de Dieu, comme dirait saint Thomas. Ben, ce que fait en nous la sécheresse, c'est qu'elle fait grandir en nous cette capacité. Ceci dit, voilà, si une période de sécheresse dure très longtemps, il est toujours important, en tout cas, de se nourrir d'écrits spirituels, notamment la Nuit obscure de Saint Jean de la Croix, très recommandée, et peut-être, voilà, dans l'accompagnement à direction spirituelle, de pouvoir en parler, ou dans la confession, pour pouvoir être affermi, accompagné sur ce chemin. Je conclue. Sainte Thérèse d'Avila nous rappelle régulièrement que le but de l'oraison, c'est d'unir notre volonté à celle de Dieu. Le but de l'oraison, c'est d'unir notre volonté à celle de Dieu. Elle utilise l'image traditionnelle dans la tradition spirituelle du mariage spirituel, du mariage mystique, qui veut dire simplement être tellement uni au Seigneur dans notre volonté que, au fond, on fait naturellement, ou plutôt surnaturellement, la volonté de Dieu sans nous en rendre compte. C'est pas mal, ça. Plutôt se demander toujours c'est quoi la volonté de Dieu. Ben, les saints, en fait, c'est tellement intériorisé, ils sont tellement transformés, ils font presque, parce que presque, on n'est pas encore au ciel, on fait presque la volonté de Dieu, parce que c'est tellement ajusté au bon Dieu que les choses se font, je dirais, presque spontanément. Voilà le but de l'oraison, c'est d'être transformé pour pouvoir devenir et agir comme Dieu, comme le Christ. Le but de l'oraison, dit Sainte Thérèse quand elle finit le château intérieur, c'est pas de nous tourner les pouces, comme si les saints étaient des gens qui étaient complètement déconnectés de notre univers, c'est d'agir, mais agir avec une puissance d'effet beaucoup plus grande qu'avant, parce qu'on n'en fait pas à notre tête, mais qu'on agit selon Dieu. Et Sainte Thérèse, la petite Thérèse, disait, en reprenant Jean de la Croix d'ailleurs, le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les autres œuvres réunies ensemble. Genre de phrase qu'il faut écrire sur sa glace, vous savez, le matin. Voilà, on va se faire sa toilette. Le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les autres œuvres réunies ensemble. Quand on est piégé par l'activisme, ou qu'on se dit qu'on est vraiment des sauveurs du monde, rappelons-nous cela. Le Seigneur n'a pas besoin de nos œuvres en termes quantitatifs, il a besoin de l'engagement de notre volonté et de notre qualité d'amour. C'est lui qui est sauveur, c'est pas nous. Nous, il nous demande de collaborer, mais dans l'amour et non pas dans la grandeur des choses et des œuvres. Et tout le chemin de l'oraison dont il a été question pendant ces trois séances est ce chemin d'amitié avec le Christ qui déteint sur nous, qui nous transforme, de même qu'un ami déteint sur un autre ami, pour que nous agissions comme le Christ et que nous-mêmes, nous collaborions dans l'Église à son mystère de salut, en devenant des témoins, non pas, je dirais, théoriques, mais qui ont expérimenté ce qu'est l'amour de Jésus, et qui sont capables de le transmettre autour d'eux. Et tout le chemin de la prière, qui est un chemin de transformation, et je dirais d'évolution, la prière, ce n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas « j'ai trouvé ma manière de prier, jusqu'à la fin de ma vie, ce sera comme ça ». Puisque c'est une relation, elle va changer dans le temps, puisque je change. Il va falloir que je trouve les deux ingrédients, qui sont la fermeté dans la fidélité, je tiens bon par amour, et en même temps la souplesse sur la manière de conduire cette relation. Parce que si je suis complètement figé sur ma manière de prier, c'est plus la vie, c'est la méthode ou la technique. Mais la méthode et la technique, je suis tout seul avec moi-même, je ne suis pas avec le Dieu vivant qui va me faire cheminer. Bien. Voilà, j'ai explosé le timing, mais ce n'est pas grave, c'était la dernière. Nous allons donc passer au temps de